j'utilise le champ, j'utilise les objets, j'utilise les post-it, le dessin, la vidéo.
L'art contemporain, c'est cette hyper ou ultra sensibilité à son époque.
Patrick, je t'en prie, c'est quoi ce truc là?
C'est un sculpteur grec qui l'a fait. Takis Naadincho, j'ai vu quoi. En Californie, c'est de la folie, tout le monde se l'arrache.
Et ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? C'est de l'art, il est con celui-là. Ça sert à rien, tu mets ça chez toi et puis c'est tout.
Et donc qui est en relation très forte avec l'actualité, avec le monde dans lequel on vit.
En lien avec le design, en lien avec les industries, en lien avec le social, avec l'économie.
Chronique MP Vite, un rendez-vous mensuel avec l'art contemporain présenté par Pauline Venet.
Bonjour à Pauline Venet.
Bonjour.
Qui vient de nous rejoindre de l'association MP Vite, ça va bien?
Très très bien.
Et rebonjour à Quentin Lefranc.
Rebonjour.
Artiste très à l'œuvre autour du Bocos du Hub. Et puis rebonjour à Romain également. Romain qui a créé l'association MP Vite qui tient chronique chaque mois, qui est un artiste également, hein, on le sait bien. Pauline, on va parler de suppléments. Suppléments, c'est l'œuvre de Quentin ici présent. Une installation qui va être vernie, comme on dit, à partir du 15 juin. Mais au-delà, oui. Suppléments, c'est quoi?
Alors, supplément, en fait, c'est une installation qui va être installée autour du Blocos du Hub, donc en extérieur.
Le Blocos du Hub, on va le situer géographiquement, c'est sur l'île de Nantes.
Hein, oui, près de la gare de l'État, en fait.
Voilà, c'est ça, pas très loin de Cérolux, tout ça.
Un pour peu situer. Après Trampolino.
Et donc, à pas confondre avec le Blocos des Y10. Hein.
Exactement. Donc, cette installation va être visible du 15 juin, donc vernis jeudi, là, à partir de 18h30. Elle est visible jusqu'au 30 septembre. Donc on va parler avec l'artiste de l'installation plus en détail dans quelques instants. Donc juste pour présenter Quentin Lefranc en deux, trois mots. Quentin, tu es né en 1987 et tu passes une partie de ton enfance à Milan, puis ton adolescence à Nantes. Tu connais bien la ville, que tu aimes particulièrement, et aussi les ouvrages des grands architectes qui ont pu te marquer, comme celui du Corbusier, La Cité Radieuse. Tu pars à Paris effectuer tes études d'art et tu débutes en peignant des images plus ou moins abstraites tirées de détails d'éléments architecturaux, donc en utilisant des effets de cadrage. Au fil de tes recherches, tu t'intéresses au fondement de la peinture, son rapport à l'espace et au parallèle entre la sculpture peinte et l'architecture.
Oui, c'est ça, c'est bien résumé. Merci Pauline. Oui, effectivement, pour expliquer un peu comment j'en suis venu à faire cette pièce supplément, c'est important de dire que oui, j'avais déjà un intérêt pour l'architecture, mais que je n'ai pas choisi d'aller vers l'architecture comme métier, et que comme tu disais tout à l'heure, je choisissais des cadrages d'architecture que je peignais, et ça rendait des images plus ou moins figuratives, plus ou moins abstraites. Au fur et à mesure de mes études, je me suis aperçu assez vite que tout ça devenait presque un exercice de style et que il fallait trouver une échappée entre guillemets. Et du coup, tout ça m'a permis de voir que l'architecture m'intéressait, mais c'était avant tout l'espace qui me questionnait. Et à partir de ce moment-là, j'ai détaché l'image de la peinture pour me poser des questions autour de ce qui peut faire peinture, des éléments entre guillemets génériques de la peinture, et comment elle est présentée dans l'espace.
Quel a été le point de départ? Tu m'avais parlé de petits cailloux peints.
Oui, au-delà de d'images d'architecture, j'avais peint des cailloux, et puis ces cailloux, j'ai voulu faire le parallèle pour voir un peu, pour expérimenter ce qui se passait entre une modélisation d'un caillou qui devenait une sculpture et la peinture. Et puis ce qui m'intéressait dans le caillou, qui n'est pas très éloigné du bloco, c'est que c'est un monolithe. Que le bloco, c'est aussi fait pour se retourner, c'est une architecture sans fondation, faite d'un bloc. Et le caillou est aussi n'a pas de dessus, pas de dessous, comme ça. C'est quelque chose qui peut rouler. On voyait le jeu tout à l'heure avec les petits culbuteaux. Bon, c'est cet ordre-là. Voilà, essayer de comprendre ce qui se passe pour revenir à la peinture, faire tourner la peinture sur elle-même et parfois on voit le châssis dans mon travail. Donc on va vers l'envers du décor et vers les questions de la présentation.
Oui, parce qu'avec l'œuvre présentée autour du Blockhaus, tu questionnes la place de la peinture aussi par rapport à l'architecture. Par exemple, en architecture, le peintre agit généralement après l'architecte, donc en recouvrant la structure. Et toi, tu as voulu faire justement faire sortir la structure des murs.
Il y a plusieurs choses qui m'intéressaient dans le Blockhaus. Déjà, c'est cette idée de monolithe, ce matériau brut qu'est le béton. Et oui, ce que j'essayais de faire, en fait, c'est poser un peu l'ambiguïté et poser cette question à partir de quand arrive l'artiste et la peinture. Finalement, en tant qu'artiste, on intervient toujours sur un ou dans un élément, qui est un espace souvent fait par un architecte. On parle du white cube régulièrement en art contemporain. Et finalement, cette peinture, elle vient toujours en supplément. On vient accrocher un tableau, une toile tendue sur un châssis, sur un mur. Et donc, c'est toujours, entre guillemets, une dernière couche. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mon installation autour du Blockhaus. C'est à la fois de jouer sur cette notion-là, tout en l'inversant, puisque je n'interviens pas à l'intérieur du Blockhaus, mais vraiment sur l'extérieur. Et à la manière d'une peinture en bâtiment, elle vient comme ça partiellement recouvrir le béton brut. Ce n'est pas juste un jeu de peinture liquide appliquée sur la surface. J'ai aussi joué dans... En fait, il y a toute une structure qui vient faire une parenthèse, comme ça englober le Blockhaus, structure en bois peinte. Et cette structure est faite de plans et d'éléments et de lignes structurelles.
Oui, Romain, tu voulais intervenir ?
Je voulais justement te demander à quel moment la peinture s'arrête, la construction, en tout cas l'installation, sculpture, architecture commence, puisque effectivement tu parles de châssis. Pour toi, la peinture n'est pas juste une couche fine sur le support, mais aussi le support lui-même faisant acte de peinture. Où est-ce que... Comment tu... Genre, c'est presque comment t'es arrivé à ça. Alors tu parlais des cailloux tout à l'heure, mais et aussi à quel moment ça s'arrête. En tout cas, est-ce que t'établis une limite entre l'objet peinture et l'objet architecture?
Justement, j'ai vraiment envie de jouer sur cette ambiguïté-là. Il y a pour moi, une toile tendue sur un châssis est déjà une peinture. Après, là, on retrouve dans l'installation que j'ai faite des choses qui peuvent être à la fois proches d'un châssis de peinture et à la fois proches d'une ossature architecturale. Et l'ensemble est peint, et du coup, on ne sait plus tellement si c'est un châssis de peinture ou si c'est un châssis d'architecture. Et c'est cette ambiguïté-là qui me permet de réfléchir sur à partir de quel moment arrive la peinture. Mais je ne veux pas vraiment donner d'indication, je préfère juste poser la question.
Non, c'était une question. C'était une question piège. C'est une question aussi qui redéfinit finalement le statut d'un médium à l'intérieur de l'art, et qui est pas le. On peut prendre par exemple le dessin dans l'espace qui vient flirter avec l'architecture autant que la peinture. Et c'est une question, on va dire, qui a commencé au début du XXe, mais qui s'est vraiment qui a vraiment explosé à partir des années 70, c'est qu'est-ce qui fait un médium. Et on se rend compte que en creusant, on ne peut pas en déterminer une limite, quoi.
Et puis là, l'œuvre ne produit pas spécialement un effet de profondeur, parce qu'il s'agit d'un aplat de couleurs, mais tu veux vraiment mettre en avant l'épaisseur matérielle de la peinture.
C'est ça, oui. On n'est pas dans le tableau qui fait une image, qu'elle soit abstraite ou figurative, mais on est vraiment dans la matérialité de la peinture. Et c'est pour ça que j'ai laissé l'installation assez brute, même s'il y a une peinture, il y a un élément matériel pour vraiment insister sur cette dernière peau, quoi.
D'accord. Justement, le châssis laisse apparaître des éléments donc du bunker, des éléments bruts, comme une idée de non fini. Est-ce que c'est pour toi une œuvre qui peut être continuée ou alors qui laisse place un peu comme si elle était en suspens?
Oui, il y a cette idée de suspens. Il y a plusieurs choses par rapport à cette idée de non-fini qui m'intéresse. Oui, effectivement, il y a des pans qui viennent partiellement entourer et recouvrir le blocos et qui laissent le béton brut apparaître. Et c'est aussi une question que je me pose. Est-ce que le béton brut cadré comme ça dans un cadre est pas aussi pictural dans sa surface? Et ça, c'est aussi un jeu, un jeu personnel, mais ça c'est que des choses qui m'intéressent. Et sur cette idée de non fini, ici c'est une proposition pour un endroit spécifique. Elle pourrait être retravaillée, reproposée pour un autre bâtiment, mais elle n'aurait jamais cette forme-là. Et ça, cette idée de travailler sur des choses comme ça qui sont liées au lieu, sont importantes pour moi. J'aime pas parler d'in situ, mais cette idée de réfléchir par rapport à un espace donné m'intéresse plus que d'arriver dans un espace et de poser un objet fini.
On est toujours avec Quentin Lefranc, artiste qu'on entendait à l'instant, interviewé par Pauline Venet et Romain Boulet de l'association MP Vite. On parle de Supplément, cette installation dont le vernissage aura lieu ce jeudi 15 juin au Hub, au blocos du Hub. Et je relaisse la parole à Pauline.
Oui, parce que là, pour toi, le travail, la réflexion autour de la manière de montrer son travail, d'exposer son travail est assez importante. La façon aussi d'agir tout en exposant. Donc par exemple de modifier l'espace d'exposition, la perception aussi du lieu, de l'objet sur lequel tu vas apposer un élément par exemple. Je sais pas, par exemple l'exposition que tu as pu faire à la galerie Jérôme Pochon, dans laquelle tu as modifié la profondeur en fait en ajoutant des plans de couleurs et assez significatives.
Alors on parlait de Le Corbusier tout à l'heure. Le Corbusier, il a été architecte, il a été aussi peintre. Il a fait des peintures tout à fait traditionnelles en lien avec son temps ou en peignant des images sur des toiles tendues sur châssis. Mais ce qui m'intéresse plus dans le lien de la peinture à Le Corbusier, c'est comment il a appliqué la couleur sur l'architecture. Il ne l'a pas appliqué de manière décorative pour décorer un lieu, mais il l'a appliqué avec toute une réflexion autour de qu'est-ce que faisait la couleur quand elle était posée sur ce type de surface, sur ce type d'orientation dans l'espace, et par rapport à la forme de l'architecture. Et ça, c'est vraiment un travail de peinture dans l'espace, et que j'ai réfléchi aussi. Et chez Jérôme Pochon, j'avais effectivement peint un des murs du fond en rouge pour annuler cet effet de couloir et de profondeur de la galerie pour amener le fond au premier plan.
Cette galerie est où ?
C'est une galerie parisienne, rue Notre-Dame de Nazareth, dans le Marais.
Merci de ces précisions.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'affectionne MP Vite, de choisir s'entourer d'artistes qui travaillent avec l'espace et de chercher des lieux un peu atypiques que les artistes peuvent s'emparer.
Bah, tout à fait, ce que tu disais tout à l'heure, le fait que la forme de ton installation est induite par le lieu qui t'accueille. Donc, c'est-à-dire que le choix t'arrives pas avec quelque chose que tu viens poser. Et ça, c'est pour ça que nous, on est obligés à chaque fois de retrouver des lieux un peu différents, atypiques, pour que justement cette forme soit une matière pour les artistes. Et que du coup, l'installation, entre guillemets, in situ ou contextuelle, si tu préfères ce terme. Et après, je rebondis sur ce que tu disais, parce que tu fais finalement référence à Buren, avec quand tu dis que tu cadres le blocos et que finalement, on va voir une partie du blocos. Est-ce que c'est pas ça qui ferait image à un moment donné ou surface? Et pour donner un exemple, puisque tous les Nantais connaissent les anneaux de Buren, c'est un peu les anneaux de Buren, c'est les fondamentaux de Buren, c'est-à-dire qu'en fait l'anneau cadre un paysage, et si on se met devant un des anneaux, on crée l'image, c'est le paysage qui la crée, et le support anneau est une forme de, on va dire, d'éléments qui permet de cadrer le paysage. Et donc du coup, pareil, la forme et le fond étant l'espace environnement. Environnant, pardon, et la forme étant cette espèce d'anneau. Alors, est-ce que c'est ça te parle un petit peu, ce travail de Buren? Je suppose que tu as dû bien regarder un peu son travail quand tu étais plus jeune.
Oui, et même je continue de le regarder aujourd'hui. C'est vraiment, ça fait partie des... On parlait beaucoup des années 70 tout à l'heure. Ça fait partie des artistes importants quand même sur cette question de travail d'espace. Et oui, c'est cette histoire de... Bon, je parlais de White Cube tout à l'heure. Là, le bloco, c'est finalement l'inverse du White Cube. C'est aussi un cube, presque. Parce qu'il
un
fait
gray, tout... gray cube.
Voilà. et plein. Et, parce que le White Cube est vide. Mais là, on est dans un bloc vraiment plein. À la limite de la sculpture et de l'architecture, d'ailleurs. Parce que quand on les voit sur les plages de l'Atlantique basculer, et obsolètes, hein, parce qu'ils n'ont plus d'utilité... Bon, c'est des sculptures presque parfaites, quoi. Je pense qu'il n'y a rien besoin de faire de plus. C'est d'ailleurs ce qui était quand Romain m'a invité à faire la proposition. Bon,
c'était particulièrement inspirant d'ailleurs de proposer votre supplément sur un élément comme ce blocos avec sa spécificité architecturale, son côté granuleux, rugueux.
Je sais pas si c'était inspirant, mais c'était un sacré challenge qui m'a tout de suite beaucoup plu. Il y avait des artistes qui avaient déjà intervenu dessus, dont je connaissais les interventions. Et bon, c'était vraiment un sacré challenge pour moi. Et je remercie vraiment Romain de m'avoir proposé ce projet. Et après, peut-être que pour continuer à expliquer un peu le travail... je disais que j'arrivais pas avec des objets que je déposais dans le lieu. Bon, j'ai quand même un travail d'atelier. Je travaille pas toujours sur site. Le travail de l'atelier me permet de préparer ces choses-là. C'est beaucoup de travail de maquette, presque comme des architectes, où je viens recréer comme ça comme le jeu qu'on a vu tout à l'heure, des petites boîtes, des petits ensembles pour voir comment ça va se passer dans l'espace. Et après, j'interviens dans l'espace. Mais tout le travail en amont d'atelier est lié à cette préparation. Quoi.
Oui, la projection, oui, ouais. En amont.
Ouais.
Ce qui est tout à fait aussi intéressant, c'est que tu abordes ça d'une manière architecturale, où quand tu parles de finalement du Corbusier qui aborde la question de la peinture, pas juste pour faire décoratif. Et en même temps, le paradoxe, c'est que le blocos, c'est une architecture fonctionnaliste, qui n'a pas de volonté absolument ornementale. C'est-à-dire qu'on fait au plus simple, au plus rapide, on coule du béton et il faut que ce soit hyper costaud, sans fondation, pour que quand on puisse envoyer une bombe, bah, le blocos se déplace et ne se fracture pas. Et en même temps, de proposer à des artistes une intervention dessus, c'est aussi se positionner par rapport à ça. Et du coup, je trouve que j'aime bien un peu l'ambiguïté de ça. C'est du coup, c'est quand même ornementé, si on prend le côté décoratif au sens bon du terme. Finalement, tu rajoutes une couche d'ornement à quelque chose qui n'en a pas. Et après, on peut aller vers toute l'architecture de parements de façade. On voit, c'est beaucoup la mode en ce moment. C'est-à-dire juste de mettre des panneaux et puis finalement... contexte derrière, et donc il y a toutes ces questions qui sont posées aussi à l'architecture et qui sortent du champ juste pictural.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui l'architecture est vraiment une architecture plus monolithique, mais de couches, hein. On fabrique plus avec un ensemble de pierres, mais vraiment par strates comme ça, et bon, c'est des choses que je regarde beaucoup quoi, c'est, par rapport à cette question de la peinture, que ça soit des strates de verre qui viennent refléter le paysage, ou que ça soit des strates de matériaux divers. Oui, ça, c'est des choses bon, qui me questionnent en tout cas. Et oui, c'est cette architecture.
Oui, alors, je vais interrompre juste Quentin, mais le fait par exemple de proposer, de faire une proposition artistique en extérieur sur une voie de passage, il y a beaucoup de circulation, est-ce que ça conditionne également la conception artistique? Est-ce que ça change un peu le regard plutôt que de proposer des installations indoor pour parler en bon français?
Alors oui, il y a bien sûr bon, il y a beaucoup de paramètres, hein, aussi bien sur un plan social que sur un plan technique et lié aux conditions climatiques, hein, le vent, il y a beaucoup de vent à cet endroit-là. Le soleil, la lune, la pluie, tout ça paramètre quand même. Je peux pas mettre n'importe quel matériau en extérieur. Bon, je pourrais pas mettre du papier ou des choses comme ça.
Mais le fait qu'on va pouvoir apprécier l'œuvre peut-être de sa voiture, on va passer de façon furtive. Est-ce qu'on réfléchit à ça quand on est un artiste comme vous, Quentin Lefranc, est-ce qu'on dit tiens, on va concevoir l'œuvre pour un regard furtif qui va durer quelques secondes, ça rentre pas du tout en ligne de compte?
Bah, à la limite, il n'y a pas grand-chose à voir, il y a juste ces pans de peinture. Donc quelqu'un qui passe en voiture verrait presque l'ensemble. Bon, il ne ferait pas le tour, mais il verrait presque l'ensemble. Et ça, c'est des choses que je considère. On est plus dans une peinture d'environnement, c'est un environnement, plutôt qu'un... qu'un trompe-l'œil.
C'est d'ailleurs pas que de façon furtive, puisque l'endroit où c'est placé, il y a des embouteillages tous les soirs qui durent une bonne heure.
Donc on peut apprécier.
Tranquillement, de sa voiture, assis.
Il nous reste 1 minute 30. Je sais qu'il y a ce vernissage ce jeudi 15 juin à partir de 18h30. Il y a vraiment, en quelques mots, Romain ou Pauline, il y a une performance live à 19h30. C'est de la musique, c'est quoi?
Oui, c'est l'artiste Ninyu, un jeune artiste donc qui est issu des Beaux-Arts de Nantes, qui fait aussi de la musique. Donc là, ça va être une sorte de nappe sonore électronique qui va jouer en direct à 19h30, le soir du vernissage.
Et n'oublions pas que c'est une programmation du Hub. Voilà, c'est-à-dire qu'on est, comme toujours, avec les copains du Hub. Eux programment la partie musicale et nous, la partie, on va dire, plus plastique. Mais c'est aussi une collaboration. Donc je tenais à les remercier de cette invitation.
Et puis, quant à Lefranc, on pourra le rencontrer publiquement, puisqu'il y a une rencontre qui est prévue le samedi 17 juin de 15h à 17h, Pauline.
Oui, voilà, vous pourrez venir admirer l'œuvre, rencontrer Quentin
sur
et
place,
puis lui poser plein de questions. Oui, voilà, c'est ça.
Et c'est une installation, c'est une proposition évidemment de MPVIT en partenariat avec Le Voyage à Nantes, en partenariat avec JetFN également. Il y a d'autres partenaires. On ne peut pas tous les citer, mais on en est tout à fait ravis. Le temps est hémophile, Pauline. On réinvitera Quentin.
Avec plaisir.
Merci. Merci beaucoup d'être venu vous déplacer dans nos studios. Merci Romain.
Merci Pascal.
À très bientôt. Pauline, quelques mots de conclusion?
Bien, c'est la dernière exposition d'MPVIT pour cette fin d'année scolaire. Vous nous retrouvez en octobre pour une nouvelle chronique avec une nouvelle présentatrice ou présentateur. Car c'est ma dernière chronique aujourd'hui.
Voilà. Bien Pauline, bon vent, merci de tes bons soins pendant tous ces mois-là, et puis l'art contemporain aura droit de cité, on en est ravis, grâce à MPVIT sur les ondes de JTFM.
Les post-it, le dessin, la vidéo.
L'art contemporain, cette hyper ou ultra sensibilité à son époque.
C'est de l'art, il est con celui-là. Ça sert à rien, tu mets ça chez toi et puis c'est tout.